Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus. Vous avez peut-être reconnu ce générique, c'est celui de la série de TF1 HPI qui redémarre pour une deuxième saison, l'histoire d'une mère de famille particulièrement intelligente et dont les capacités hors normes sont repérées par la police qui lui propose un poste de consultante.
C'est quoi votre truc? Vous êtes surdouée?
162 QI. Haut potentiel intellectuel, HPI comme ils disent. Et ouais, mon cerveau marche tout seul et puis je cours derrière.
Mais qu'est-ce que vous foutez à faire le ménage?
Il semblerait que j'ai un problème avec l'autorité.
Ouais, j'ai jamais réussi à garder un boulot plus de 2 mois.
Elle est bidon, hein, votre vidéo. C'est pas la bonne date.
Madame Alvaro, vous pouvez y aller maintenant.
Attendez, allez-y, expliquez-nous.
Bah, les arbres, vous voyez bien qu'ils bougent comme ça. Vent d'ouest. Bon, bah, dans le Nord-Pas-de-Calais, les vents d'ouest, c'est au printemps. En automne, comme aujourd'hui, il n'y a que des vents du sud.
M'expliquez comment vous arrivez à définir où est l'ouest, là, dans cette vidéo?
Bah, l'église. La plupart des églises sont tournées vers l'Orient. En tout cas, jusqu'à l'arrivée des jésuites, qui, eux, ont débarqué en disant « Nous, on s'en branle, on fait comme on veut, on vous emmerde, bon, bref. » Du coup, l'ouest, eh ben, c'est forcément par là. Donc, votre vidéo, elle a au moins 3 mois.
Voilà, HPI, pour en parler avec nous dans ce podcast, Jeanne Ciot-Fachin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes psychologue clinicienne, spécialiste des surdoués, un sujet auquel vous avez consacré de nombreux ouvrages. L'extrait qu'on vient d'écouter, ce personnage de série télé, c'est vraiment ça, être HPI?
Bah, c'est une caricature, bien évidemment, mais moi, je trouve très sincèrement que ce personnage, il incarne bien toutes les singularités de ce qu'est être avoir ce profil singulier de haut potentiel intellectuel, donc, parce qu'on voit bien Audrey Fleurot dans son personnage de Morgane, elle scanne tout, elle voit tout, elle aperçoit des détails que jamais personne n'aurait repéré. Elle fait donc des déductions à partir de ces détails. Elle associe ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a compris avec d'autres choses qu'elle a vues avant, qu'elle avait mémorisées, toutes les sensations qu'elle a pu percevoir, même dans un regard, dans une relation avec quelqu'un, et de façon très inductive, qui est une façon d'être intelligent, c'est-à-dire qu'on ne fait pas par déduction avec des étapes séquentielles, mais par induction en rassemblant extrêmement rapidement tout un ensemble d'infos, eh bien, elle peut arriver à résoudre des problèmes, des intrigues, des enquêtes, alors que quelqu'un qui aurait un fonctionnement intellectuel plus classique n'aurait pas résolu aussi directement qu'elle. Et c'est ça qui est intéressant. Et on voit bien en même temps que elle a aussi cette façon d'être au monde qui est un peu singulière. Elle le dit là dans l'extrait qu'on vient d'écouter, qu'elle a toujours eu du mal avec l'autorité, parce que quand on fonctionne comme ça, avec cette puissance intellectuelle, avec cette grande vivacité, cette rapidité à tout traiter, tout le temps, à tout comprendre, à se saisir d'un regard, de quelque chose d'infime, de passer dans les interstices, eh bien, y a des moments où on ne peut pas supporter que les autres n'aient pas vu, n'aient pas compris, n'aient pas intégré, et puis on peut avoir tendance à ruer dans les brancards pour faire avancer les choses plus vite, mais on n'est pas compris parce que les autres disent, mais oh là là, mais tu vas trop vite, tu es trop excessif, ralentis, calme-toi, tu nous saoules.
Donc c'est ça, être HPI, c'est un petit peu la même chose qu'être surdoué. C'est quoi la différence?
C'est exactement pareil. Il y a beaucoup de termes qui dépendent des époques, hein, comme tout. Il y a un vocabulaire qui va avec l'époque. Donc on a parlé longtemps de surdoué, hein, qui est la traduction du terme anglais gifted, avoir un don. Et puis après, on a parlé de précocité, parce que c'était plus acceptable par l'éducation nationale en particulier. On disait qu'on était précoce, et donc ça voulait éventuellement dire que les autres finiraient par nous rattraper, ce qui est faux, puisque voilà, ça marche pas comme ça. Et puis après nous est venu HP pour haut potentiel, puis HPI maintenant. Moi j'ai introduit par hasard le terme de zèbre, qui est d'ailleurs entré dans le Larousse 2021 totalement à mon insu, je n'y suis strictement pour rien, mais c'est exactement un synonyme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Certaines personnes, parce que c'est un peu ça le problème, c'est la dérive, s'emparent de tous ces termes et disent « Ah oui, mais être surdoué, ça veut dire ça, être HP, ça veut dire ça, être ZEP, ça veut dire ça. » Non. C'est tout pareil, ça signifie tous les termes signifient la même chose.
Bon, alors, en tout cas, le terme HPI, il a été popularisé notamment par cette série télé de TF1. Alors, c'est pas du tout une maladie, ça peut expliquer certains troubles, comme nous le raconte Vincent Serrano dans ce reportage diffusé sur RTL.
Oui, quelques mois à peine après la naissance de son deuxième enfant, Clotilde remarque certains comportements chez Martin, son garçon, et notamment quelque chose de très fréquent chez les hauts potentiels intellectuels, une hypersensibilité.
On avait des problèmes plus de comportement, plus que des problèmes de se dire il est hyper doué. Des colères, des crises, une incapacité à choisir, un trouble anxieux, une angoisse très très forte.
Martin est finalement identifié au potentiel intellectuel à l'âge de 9 ans, après un long travail chez un psychologue, la fin surtout d'une longue attente pour la maman.
Ça nous a aidés parce que ça nous a permis de mettre en place le bon suivi, c'est-à-dire de s'orienter vers les bons professionnels, vraiment spécialisés sur la précocité.
Et surtout d'écarter certaines pathologies, elle, qui pensait notamment au syndrome d'Asperger. La compétition scolaire, c'est finalement ce qui pousse la plupart des parents à vouloir trouver chez leur enfant les signes d'un HPI bien avant l'arrivée de la série.
Voilà, c'est important de trouver les bons professionnels, Jeanne-Sio Fachin. C'est visiblement un effet collatéral de cette popularité du terme HPI. On a l'impression que de plus en plus de gens affirment que leur enfant est HPI ou que eux-mêmes sont HPI. Vous partagez, vous, ce sentiment ?
C'est-à-dire qu'il y a un effet de mode, incontestablement, il y a un effet de mode. Et évidemment, la série HPI a largement favorisé cet effet de mode. Et je crois qu'aujourd'hui, l'essor incroyable du développement personnel depuis ces 15 dernières années favorise cette quête de soi, cette quête de mieux se comprendre, et on s'observe beaucoup plus qu'on ne s'observait il y a 50 ans, incontestablement. Et puis, les neurosciences ont fait des avancées prodigieuses aussi. Il y a quand même ça qui est rentré en ligne de compte. Et aujourd'hui, par exemple, en classe, quand un élève a des difficultés à l'école, on a plus ce réflexe, et tant mieux, d'essayer de comprendre pourquoi, plutôt que de lui mettre un bonnet d'âne et de le mettre dans un coin de la classe en lui disant, de toute façon, on ne pourra rien faire de toi, et t'es un paresseux, t'es un poil dans la main, parce qu'on sait mieux aussi diagnostiquer cette fois-ci des troubles des apprentissages, des dyslexies, des dyspraxies, des troubles de l'attention. Et effectivement, le HPI va donner des singularités dans le profil scolaire qu'il est quelquefois important de repérer. Et comme vous l'avez très justement dit, c'est pas un diagnostic, puisque ce n'est pas une pathologie, c'est une identification qui va donner des caractéristiques.
Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour identifier un HPI ?
Alors, il y a une seule chose à faire, c'est de faire un bilan psychologique chez un psychologue. Tout le reste est farfelu, tout le reste c'est du charlatanisme. Il faut faire un bilan, c'est-à-dire évaluer avec des tests validés par la communauté scientifique internationale ce qu'il en est de l'intelligence. Alors, on mesure pas vraiment l'intelligence, parce que l'intelligence c'est quelque chose de difficile à définir. Mais on explore le fonctionnement de l'intelligence avec ces fameux tests de QI.
Oui, c'est ça, c'est des tests de QI.
Ces fameux tests de QI, mais un QI, c'est subtil, un QI, c'est pas une espèce de score avec une étiquette. D'abord, c'est composé de plein de choses. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, c'est un score composite, un QI. Mais c'est le premier critère pour se poser la question d'un profil de HPI, c'est-à-dire d'avoir ce fameux score de QI qui est égal ou supérieur à 130.
Et si moi, demain, par exemple, je vais sur internet, je tape test de QI ou test HPI, que je fais ce test, ça peut me donner cette identification?
Non, ça vous amusera peut-être.
On a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font ça.
Mais oui, mais ça, c'est vraiment
auto-identification.
Mais oui, mais alors ça, c'est de la fumisterie totale. C'est-à-dire, aucun test sur internet, aucun expert autoproclamé spécialisé en HPI qui vous regarde droit dans les yeux ou qui vous dit abracadabra, tu fais 2-3 trucs comme ça et moi, ça y est, je sais que tu es comme ça. Non, ça marche pas. Donc, il y a ce test de QI qui est un test archivalidé. Et puis ensuite, toujours une exploration de la personnalité de façon à toujours croiser les choses. On n'est pas une tête d'un côté et un corps, un cœur, des émotions, une sensibilité de l'autre. Donc un bilan psychologique, c'est ça, c'est le test de QI, premier critère, ce fameux QI, en sachant que 50% de la population a un score de QI compris entre 90 et 110. Donc, quand on descend, eh bien, on va plutôt vers la déficience intellectuelle. Mmh. Et on sait bien, par exemple, quand vous êtes déficient intellectuel, que vous avez moins de 70 de QI, ben on voit bien que votre façon d'être au monde, de comprendre, la sensibilité est différente. Et quand on monte de l'autre côté et qu'on arrive à 130, c'est-à-dire deux écarts types par rapport à la norme statistique, eh bien là encore, le fait de capter vite, d'analyser toutes les choses, d'avoir comme des capteurs sur le monde, de vibrer d'une certaine façon au moindre murmure du monde, ça donne une façon d'être au monde qui est singulière. Et c'est ça qui est important de repérer.
Donc être HPI ou être surdoué ou zèbre, quel que soit le terme, c'est avoir un QI au-dessus de 130, c'est ça ?
Oui. Un QI au-dessus de 130, alors en sachant qu'il y a plein de subtilités. C'est pour ça qu'il faut obligatoirement que ça soit un psychologue formé à comprendre et analyser ces tests qui peut poser cette identification et comprendre le profil de quelqu'un.
Les HPI, les surdoués, les zèbres, ça représente quoi comme proportion de la population ?
2,3%.
Ah oui, donc c'est très peu en fait.
C'est très peu, mais c'est pas mal. Parce que, par exemple, 2% de 67 millions d'habitants, ça fait vite beaucoup de monde. Ou 2% dans une classe, ça fait vite au moins un enfant par classe.
Parmi les gens qui viennent vous voir, combien est-ce que vous identifiez ?
On considère à peu près que sur 4 demandes de consultation, il y a à peu près un adulte identifié HP sur 4. 1 sur 4, à peu près. Hein. Mais c'est formidable parce que les 3 autres,
oui,
ils n'auraient jamais poussé la porte d'un psy. Ils ne seraient jamais venus consulter s'ils ne s'étaient pas posé ces questions-là. Et du coup,
mais il y a une forme de déception chez eux ?
Non, parce qu'un bilan, ce n'est pas, pas une étiquette, justement. On ne dit pas « vous avez ça ». Ce n'est pas comme un test de grossesse. On n'est pas positif ou négatif. Un bilan, c'est une carte du territoire qui permet de mieux comprendre son territoire intérieur. Et c'est beaucoup plus pratique de se balader dans la vie avec une carte du territoire qui vous correspond que si vous baladez à Paris avec un plan de Marseille. Vous êtes vite paumé. Donc, en fait, c'est une carte du territoire. Et cette carte du territoire, elle va permettre de se dire « tiens, avec cette personne-là, on va pouvoir passer par tel chemin, on va pouvoir l'aider de telle manière, on va pouvoir l'accompagner comme ceci, comme cela, pour que chacun se sente confortable sur son chemin. » Donc tout le monde repart avec une sensation d'avoir été entendu et compris pour ce qu'il est vraiment. Et ça, ça change tout dans la vie.
Cette popularité et même parfois ce charlatanisme autour des HPI, comment est-ce que vous le voyez, vous? C'est quelque chose que vous voyez d'un bon œil plutôt ou...
Ben non, je ne vois pas d'un bon œil parce que ça pervertit beaucoup le sujet. C'est-à-dire, quand vous avez des personnes qui s'autoproclament experts, qui disent n'importe quoi, qui racontent justement, qui font des espèces de profils via les réseaux, sur Internet, en disant « si vous vous reconnaissez comme ci, comme ça, alors vous êtes HPI, et moi je peux vous aider, et moi je peux vous accompagner, moi je peux faire des groupes, et puis moi je peux vous faire ceci ou cela. » Quand on a des personnes qui s'autoproclament HPI parce qu'elles ont lu un bouquin, je ne devrais pas dire ça, mais parce qu'elles ont lu un bouquin, elles ont lu un article, elles ont vu une émission, qu'elles voient la série, qu'elles disent « ah là là, ça y est, j'ai compris, je suis HPI, mais je n'ai pas besoin de faire des tests, parce que vraiment je me reconnais tellement. » Et qu'à partir de là, elles véhiculent des informations erronées et ça rend totalement flou et opaque quelque chose qui est du domaine de la psychologie et qui aurait dû y rester.
Parce que, en gros, si on a l'impression aujourd'hui d'être HPI, on peut lire vos livres. Alors, vous en avez écrit effectivement plusieurs sur le sujet. Et surtout, si on a ce sentiment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller consulter.
Ben, je pense qu'effectivement, c'est important de lire des bouquins sur le sujet, déjà, parce qu'il y a très, très sincèrement, moi, je connais beaucoup de personnes qui ont lu des bouquins sur le sujet et qui se sont dit « ah ben non, ça, c'est pas pour moi ». Qui, honnêtement, se disent « effectivement, on peut toujours se reconnaître ». Mais si vous lisez un tableau sur la dépression, vous allez vous reconnaître dans plein de trucs, en réalité. Mais dans le fond, vous sentez bien que c'est pas ça le truc. Après, si vous vous reconnaissez dans des bouquins, dans des articles, des émissions, peu importe, oui, c'est important d'aller faire une démarche auprès d'un psychologue pour dire, voilà, en fait, je me pose des questions, je sais pas très bien quoi, mais c'est vrai, je me sens souvent un peu différent, un peu en décalage, et j'ai besoin de mieux me comprendre pour pouvoir mieux avancer dans ma vie.
Et alors, en quoi ce statut de HPI, alors c'est pas forcément une étiquette, mais en tout cas, cette identification, en quoi est-ce qu'elle aide les gens ?
Ben, elle aide à mettre du sens sur ce qu'ils ont vécu. Moi, très souvent, les personnes me disent « un voile s'est déchiré », c'est-à-dire que soudain, elles peuvent revisiter leur histoire et leur passé et les situations de leur vie avec cet éclairage-là. C'est un peu comme si vous retourniez dans un musée et vous changez les étiquettes, c'est-à-dire vous avez toujours les images, mais vous interprétez des épisodes de votre vie différemment. Et ça reconstruit finalement nos souvenirs et notre construction identitaire. Ça, c'est pour les adultes. Et puis, pour les enfants, les ados, eh bien, ça permet le plus souvent d'ajuster leur parcours scolaire et puis quelquefois de diagnostiquer cette fois un trouble associé avec le HPI et de pouvoir rééduquer ce trouble qui est peut-être ce qui empêche le plus l'enfant ou l'ado de fonctionner au niveau scolaire ou pas d'ailleurs. Donc voilà, donc en fait ça permet d'ajuster, c'est vraiment une question de réglage, ça sert à rien en soi. C'est pas une maladie, on peut pas en guérir et puis on peut rien en faire de particulier, mais on en fait quelque chose très sérieusement quand soi-même on se sent pas tout à fait bien dans sa peau pour des tas de raisons, voire mal, voire avec des difficultés depuis longtemps. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a pu être faussement diagnostiqué. Moi, j'ai rencontré depuis 30 ans, par exemple, des patients qui avaient été diagnostiqués schizophrènes, qui avaient été diagnostiqués bipolaires, qu'on essayait d'accompagner pour des troubles du sommeil sans jamais réussir à les aider, et qui finalement avaient simplement ce profil-là. Quel soulagement ! Quel soulagement de comprendre que c'est parce qu'on n'est pas malade, à l'inverse, et que c'est autre chose qui vient empiéter sur le cours plus tranquille de la vie.
Merci beaucoup Jeanne-Sio Fachin, psychologue spécialiste des surdoués. On rappelle vos ouvrages consacrés à ce sujet, notamment Trop intelligent pour être heureux, consacré aux adultes.
Avec et puis un point aussi, d'interrogation.
Avec un point d'interrogation évidemment. Et puis L'enfant surdoué, là il n'y a pas de point d'interrogation.
Non.
C'est pour les enfants. Merci d'avoir écouté cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Si ça vous a plu, laissez-nous un petit commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur RTL.fr.